Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour un nouveau numéro de Métropolez-vous. Comme vous le savez tous, l'ensemble du territoire français, y compris la métropole toulousaine, est de nouveau confiné, et ce au moins jusqu'au début du mois de mai. Plus de déplacements au-delà de 10 km de son domicile, couvre-feu maintenu à 19h et fermeture des écoles, collèges et lycées ainsi que des commerces dits non essentiels. Pour la suite, l'incertitude demeure, bien que le président de la République nous ait laissé entendre que les cafés, restaurants et lieux culturels pourraient rouvrir à partir de la mi-mai. Encore faut-il que suffisamment de personnes aient pu être vaccinées d'ici là. Quoi qu'il en soit, cet énième épisode de la crise sanitaire, plus d'un an après son commencement, ne manque pas d'interroger sur les conséquences qu'il va avoir dans bien des secteurs, notamment sur l'économie et l'emploi. Dans ces deux domaines, il m'a semblé important de faire un point de la situation dans la métropole toulousaine. On sait que les inquiétudes étaient grandes pour l'industrie aéronautique, si cruciale à Toulouse, mais aussi pour les secteurs du tourisme, de l'événementiel, de la culture, de la restauration et de l'hôtellerie. Qu'en est-il aujourd'hui? Je vous propose de faire un état des lieux lors de cette émission consacrée aux conséquences de la crise sanitaire sur l'économie et l'emploi dans la métropole toulousaine. Et pour faire cet état des lieux, j'ai le plaisir de recevoir Dominique Faure, première vice-présidente de Toulouse Métropole, chargée de l'économie, de l'innovation et de la recherche. Bonjour madame la vice-présidente, bienvenue à vous aussi et merci d'avoir répondu présente. Je sais que votre agenda est très chargé. Je rappelle que vous êtes également maire de Saint-Orens-de-Gameville depuis 2014. Alors, concernant les trois secteurs dont vous êtes en charge à Toulouse Métropole, il me semble qu'ils ne faisaient pas partie de la même vice-présidence précédemment. Pourquoi les avoir réunis cette fois-ci? J'imagine que c'est parce qu'ils sont de plus en plus liés.
Absolument. En fait, on est sur un territoire où la technologie est quand même au cœur de notre développement économique. Et donc, innovation à la fois technologique, mais aussi sociale et sociétale, sont au cœur de notre développement économique et donc de l'emploi. Donc, c'était une évidence pour le président et maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, de réunir innovation, développement économique et emploi avec une composante aménagement de nos zones d'activité économique, puisqu'on a déjà beaucoup fait ces dernières années, particulièrement sur le campus d'Aerospace Valley à Montaudran, mais on a encore des zones d'activité à requalifier ou à aménager, des zones d'activité économique.
Et quel est votre rôle en tant que vice-présidente de ces missions, de ces compétences? Je ne sais pas d'ailleurs comment il faut dire. C'est mettre de l'huile dans les rouages, c'est faire le lien, créer du lien entre les différents acteurs de ces secteurs?
Alors je dirais que la mission est triple. La première, c'est de coordonner des collègues vice-présidents qui sont en charge de filières qu'ils connaissent bien, sur lesquelles ils font un travail important. Et l'idée est de donner de la cohérence à ce travail qui est fait par mes collègues vice-présidents. Ensuite, le deuxième axe, c'est un travail extrêmement partenarial avec le conseil régional d'Occitanie qui est chef de file sur le champ de l'économie sur notre territoire, la chambre de commerce bien sûr, la chambre des métiers, de l'artisanat et des métiers, et tous ces acteurs qui font les l'économie et l'emploi de notre territoire. Donc, une démarche très partenariale. Et puis, dans mes missions, il y a bien sûr de travailler avec l'administration, parce que c'est elle qui met en œuvre nos politiques publiques. Et donc, c'est pas moins d'une petite soixantaine de techniciens, d'ingénieurs, de chefs de service et de directeurs qui travaillent au développement économique, à l'emploi sur notre territoire.
Alors, nouveau mandat depuis juin dernier, et qui dit nouveau mandat, dit souvent nouvelle ambition, nouveaux objectifs pour Toulouse Métropole, notamment en ce qui concerne le développement économique et l'emploi, et peut-être même aussi le rayonnement international de notre territoire. Quelle est l'ambition pour les 6 ans à venir?
Alors nous sommes en fait en train de démarrer l'écriture de la feuille de route de notre schéma de développement économique sur les 5 ans qui viennent, puisqu'on est déjà en avril 2021. En fait, il y a eu 2 temps dans ce mandat. Il y a eu le temps de l'écriture du plan de relance pour l'emploi et sa mise en œuvre. Et encore aujourd'hui, on est dans la mise en œuvre de ce plan de relance qui a été voté dès juillet 2020 et sur lequel nous travaillons d'arrache-pied depuis maintenant 7-8 mois. Et puis maintenant, il y a le temps de l'écriture de la feuille de route sur les 5 ans qui viennent. Le président nous a donné un calendrier qui vise à avoir écrit cette feuille de route en décembre 2021, sachant qu'il va y avoir, comme vous le savez, des élections régionales, des élections à la Chambre de commerce, qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, des partenaires de Toulouse Métropole dans le champ de l'économie. Et donc, nous voulons attendre que ces instances soient élues, installées, écrivent eux-mêmes leur feuille de route pour pouvoir échanger avec eux et faire en sorte que notre schéma, notre feuille de route ne soit pas hors sol, elle soit bien en étroit lien avec les autres acteurs qui contribuent au développement économique d'un territoire.
Alors cette feuille de route, c'est ce qu'on appelle le schéma de développement économique. Ça va garder le même nom, je suppose.
Probablement.
A priori. Précédemment, il s'appuyait sur quatre axes forts. Je ne sais pas si ceux-ci ont changé. Il y avait ce qu'on appelait les pactes stratégiques, la qualité de l'accueil, l'attractivité et la proximité. Bon, l'attractivité, je pense que ça va rester un point hyper important.
Alors effectivement, comme je vous le disais, on démarre ce travail, donc je ne peux pas vous dire quelle en est l'ossature, mais de toute façon, on va retrouver les composantes d'une feuille de route économique pour une métropole, et l'attractivité va être bien sûr une des composantes, puisque le développement économique, qui est pour nous le sujet majeur, hein, dont on mesure l'efficacité par la capacité à créer de l'emploi sur notre territoire, c'est bien ça que l'on a chevillé au corps. Et donc, il y a deux façons de créer de l'emploi sur le territoire, en accompagnant le développement qu'on dit endogène, c'est-à-dire les acteurs économiques déjà présents que l'on accompagne dans leur développement, et donc forcément se développant, ils créent de l'emploi. Et puis il y a le développement économique exogène et qui lui s'appuie sur l'attractivité de notre territoire et qui vise à aller repérer des entreprises très souvent innovantes, des start-up qui se trouvent elles donc à l'étranger et que l'on va prospecter et que l'on va essayer d'amener sur notre territoire. Et souvent, pour reboucler avec ce que je vous disais au début, notre attractivité, elle se fonde sur nos laboratoires de recherche technologiques et nos savoir-faire en matière d'ingénierie. Donc oui, l'attractivité va rester au cœur de notre feuille de route, bien sûr, mais aussi les alliances, hein, les pactes stratégiques, je ne sais pas comment nous les appellerons, mais cette logique partenariale, le président y est extrêmement attaché et c'est comme ça qu'on était efficace quand on forme un pack avec toutes les parties prenantes de ce développement économique. Alors bien sûr, les zones d'activité, je vous l'ai dit, la façon dont on accueille physiquement dans nos zones d'activité les entreprises, ça sera bien sûr aussi dans notre feuille de route. Et puis, un travail sur les filières, avec une filière, deux filières principalement en souffrance. Une qui est bien sûr l'aéronautique civile, je le précise parce que souvent on met aéronautique, espace, système embarqué, mais l'espace va très bien sur notre territoire. On conduit des actions actuellement qui visent à ancrer l'espace sur notre territoire. Les systèmes embarqués ont trouvé leur diversification dans tout ce qui touche aux mobilités du futur. Et donc on voit bien que la filière en souffrance, c'est la filière aéronautique, je dirais même civile sur notre territoire. Donc, je vous dirai quelques mots, bien sûr, sur comment on contribue à la relance de cette filière. Et puis, la deuxième, eh bien, c'est nos commerces, nos restaurants, nos hôtels et tous nos commerces qui sont en grande difficulté parce que, effectivement, cette pandémie a obligé le gouvernement à fermer beaucoup d'entre eux.
Alors, il y a aussi l'événementiel, on en parlera plus tard, notamment en ce qui concerne le mythe. On va parler aussi de la situation de l'emploi dans la métropole, vous l'avez un petit peu évoqué, et je porte à l'attention de nos auditeurs l'existence de Toulouse Métropole Emploi, la maison de l'emploi métropolitaine. Quel est son rôle et quelles sont ses actions à cette maison de l'emploi métropolitaine ?
En fait, la maison de l'emploi est extrêmement partenariale, elle aussi. Elle agrège, on va dire, tous les acteurs qui travaillent sur le sujet de l'emploi sur notre territoire métropolitain. Alors, elle a deux axes principaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle les clauses sociales. En fait, c'est une cellule qui est dédiée et qui assure la mise en œuvre opérationnelle de ces clauses auprès de nombreux acheteurs publics. Alors, nous-mêmes, Toulouse Métropole, mais aussi de nombreux acheteurs privés qui visent à imposer, quand nous achetons, que nos fournisseurs, avant de les choisir, intègrent dans leurs équipes des personnes qui relèvent de l'insertion pour l'emploi. Et donc, la métropole conduit des actions avec son PLI, plan local d'insertion pour l'emploi, et c'est Toulouse Métropole Emploi qui les met en œuvre, ces clauses sociales, et qui rapproche des gens les plus éloignés de l'emploi, dans le cadre de commandes publiques ou privées. Puis le deuxième axe, c'est faire en sorte qu'on travaille extrêmement en amont, dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales, pour essayer de amener par la formation un certain nombre de nos demandeurs d'emploi, de les amener par la formation à se rapprocher des postes, parce que nous avons toujours et encore beaucoup de postes à pourvoir.
Alors, après avoir brossé ce tableau général des actions Toulouse Métropole dans les domaines du développement économique, de l'innovation et de l'emploi, c'est le moment de faire un bilan de la situation de l'économie métropolitaine et de l'emploi sur notre territoire après un an de crise sanitaire. Comment les entreprises, petites, moyennes ou grandes, et l'économie toulousaine en général, ont-elles résisté à la crise ? Est-ce qu'il y a des situations très diverses d'un secteur d'activité à l'autre ?
Oui, la situation est très diverse. On a donc des entreprises en souffrance, en grande souffrance. Peu pour l'instant, donc on en est très content parce que le gouvernement injecte énormément d'argent à la fois dans le cadre du grand emprunt qui vient au secours de la trésorerie des entreprises, mais aussi tout ce qui touche au chômage partiel ou chômage partiel de longue durée et qui fait que les entreprises ont, une fois qu'on les a déchargées de leur masse salariale, qu'on les a aidées dans le cadre de leur trésorerie, et bien, finalement, il ne reste que les loyers. Et donc, le gouvernement a imposé aux banques d'être extrêmement ouvert à toutes les solutions pour faire en sorte que les entreprises aient le moins de loyers possible à payer pendant cette période où ils sont, pour certains, fermés. Pour autant, nous, Toulouse Métropole, essayons d'agir. Alors, je prends cet exemple des loyers dans le cadre d'un fonds dit local, L'OCCAL. Pour les auditeurs qui nous écoutent, il y a encore de l'argent dans ce fonds, qui est un fonds partenarial avec le Conseil régional et qui a un tiroir loyer où on vient un peu au secours des entreprises dont les propriétaires privés n'ont pas voulu échelonner les loyers. Et puis, on a une composante accompagnement des entreprises à l'investissement pour s'organiser, par exemple, passer à du click and collect quand le restaurant n'était pas organisé pour cela, ou pour investir dans des équipements qui leur permettent de maintenir la distanciation et d'être un peu plus conformes aux règles sanitaires qui nous sont imposées. Tous ces investissements nouveaux peuvent être pris en charge par ce fonds local. Donc pour répondre à votre question, c'est vrai qu'on rencontre encore peu d'entreprises. Donc, au tribunal de commerce, le tribunal n'est pas encombré d'entreprises.
Il n'y a pas de dépôt de bilan, beaucoup de dépôts de bilan, de faillite.
Pas pour l'instant, grâce à cet argent que, collectivement, encore une fois, le gouvernement, le conseil régional et la métropole nous injectons. Cependant, il faut se préparer à une relance qui risque, pour certains, d'être difficile. Deuxième filière en souffrance, je disais, c'est tout ce que nous appelons la supply chain dans le domaine de l'aéronautique. Et donc, vous savez...
Notamment les petits sous-traitants, les plus petits, sans doute.
Hein, tout à fait, les TPE...
De trésorerie.
Absolument. Et donc là, on profite de ce moment pour essayer d'accélérer les rapprochements entre ces TPE, ces PME et ces ETI pour essayer de consolider cette supply chain qui était extrêmement...
éparpillée, vous voulez dire?
Absolument, absolument, éparpillée. Et donc, on pense que cette crise, on va en sortir plus fort dans cette filière grâce à cette consolidation. Et cette consolidation, elle se fait, bien sûr, c'est toujours un peu douloureux pour un chef d'entreprise qui a créé son entreprise, qui en est propriétaire à 100%, d'ouvrir son capital et d'opérer des fusions avec d'autres entreprises qui aboutissent toujours à une perte en pourcentage du capital de son entreprise. Donc, on peut le comprendre, mais cette crise, elle va véritablement et elle est en train de nous rendre plus forts. Pourquoi ? Parce qu'un fonds important d'un milliard a été organisé, parce que le gouvernement n'y participe que pour partie, le Crédit Agricole y participe de façon très importante aussi, et puis quatre des plus gros industriels de notre territoire, et notre territoire français, j'ai envie de dire, même s'ils sont très présents à Toulouse, ces quatre industriels mettent beaucoup d'argent dans ce fonds, et ce fonds facilite évidemment la consolidation de cette filière aéronautique. Et nous, à notre petite échelle, pour les plus petits, parce que ce fonds est majeur et intervient massivement sur des entreprises, on va dire plutôt des PME et des ETI. Et nous, localement, avec un fonds local qui s'appelle IRDI Soridec Gestion, nous abondons à hauteur de 3 millions d'euros pour la métropole, aux côtés d'un certain nombre d'acteurs locaux et aux côtés de la région, pour venir là au capital de toute petite structure en complément de ce fonds national. Donc cette filière qui est en difficulté et qui va y être encore quelques années avant que les compagnies aériennes recommandent des avions.
Les cycles sont longs dans l'aéronautique, donc ça ne redémarre pas comme ça.
Absolument. Eh bien, il faudra bien tout cet argent pour faire en sorte que cette filière soit consolidée en attendant que les compagnies aériennes se mettent à recommander des avions. Donc, moi, je suis très heureuse que le gouvernement ait véritablement pris la décision de prendre des participations beaucoup plus importantes au capital d'Air France, parce que c'est toute la chaîne de l'aéronautique qu'il faut soutenir et pas seulement le monde des constructeurs et des industriels.
Alors, on n'a pas encore parlé des conséquences sur l'emploi de cette situation. Donc, après un an de crise sanitaire, est-ce qu'on a constaté dans la métropole toulousaine une hausse du nombre de chômeurs et de travailleurs précaires, parce qu'il faut aussi parler de cela, très importante, ou est-ce que les impacts ont été limités finalement ?
On a un taux de chômage qui est plus important. On était plutôt autour de 9%, on est plutôt autour de 11%. Donc,
oui. Il y a eu quelques plans sociaux tout de même.
Bien sûr. Donc on a eu 5 ou 6 plans sociaux importants. Alors ce que nous organisons aussi, qui évite un taux de chômage encore plus élevé, c'est la mise en relation entre des sociétés d'ingénierie qui avaient beaucoup d'ingénieurs détachés chez ces gros industriels et qui se sont retrouvés avec des salariés inoccupés. Le chômage partiel a permis à ces entreprises de les garder. garder, mais pour malgré tout maintenir ses compétences sur notre territoire, en fait, on a organisé par l'intermédiaire d'une plateforme une mise en relation entre ses compétences et ses sociétés, et puis des start-up de notre territoire qui, elles, sont en demande d'expertise et de compétences. Et donc là, on est en train d'organiser un certain nombre de mariages. Je pense à Aura Aero, qui est une belle TPE, PME, on va dire déjà, qui est une start-up il n'y a pas si longtemps que ça, innovante autour de petits avions électriques dans un premier temps, mais qui va monter assez rapidement sur un 19 places et qui bénéficie de l'accompagnement d'une petite cinquantaine d'ingénieurs. Je ne citerai pas l'entreprise qui les met à disposition, mais ce sont ce genre de mariages que nous organisons et qui font que ces compétences vont rester sur le territoire et ne sont pas des demandeurs d'emploi, mais sont bien au service des start-up qui feront l'emploi de demain sur notre aire urbaine.
Oui, parce qu'un des risques aussi de cette crise durable, c'était de perdre des compétences sur notre territoire, de perdre des ressources, des moyens. Et ça, il faut absolument l'éviter, justement, lorsque le redémarrage va pouvoir se faire. Si on n'a plus les compétences, si on les a perdues, on ne les retrouvera pas comme ça.
C'est vraiment au cœur de notre relance. Vous avez tout à fait raison. Dès le départ, on s'est dit notre grande force, c'est les compétences qu'on a sur notre territoire. Donc, on est vraiment déterminé à faire en sorte que ces personnes soient en télétravail, parce qu'on peut faire beaucoup de choses en télétravail dans le domaine de l'ingénierie, dans le domaine de la conception de systèmes, dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine de la cybersécurité. Beaucoup de choses sont digitales aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est au cœur de notre relance, cette transformation digitale de notre TPE, PME, et cette mise en relation entre ces compétences et les entreprises qui en ont besoin évite un taux de chômage trop élevé.
Il existe un plan de relance pour l'emploi de Toulouse Métropole. On peut décrire un peu le dispositif. Alors, est-ce que ça consiste en ce que vous nous avez déjà décrit ou est-ce qu'il y a d'autres actions dans le cadre de ce plan de relance pour l'emploi?
Alors, le plan de relance pour l'emploi, nous l'avons délibéré en juillet 2020. C'est 143 millions d'euros investis. On va dire 40 millions de plans de lutte contre la précarité d'aide aux associations. Cinquantaine de millions pour la relance dite keynésienne, c'est-à-dire nous avons augmenté notre commande publique qui est environ de 300 à 350 millions d'euros.
Ça, je pense que c'est important d'en parler, de l'importance de la commande publique dans de tels moments pour soutenir le secteur privé.
Exactement.
Donc, qui vit aussi beaucoup de la commande publique.
Absolument. Donc nous avons accéléré les commandes qui étaient prévues pour 2021-2022, que nous avons ramenées à 2020 et à ce début d'année, donc à hauteur de 50 millions. Et puis 50 millions alors d'actions, 58 actions extrêmement diverses. Beaucoup tournent autour de l'innovation. Parce que je vous l'ai dit, on est vraiment au cœur de la création d'emplois sur notre territoire quand on travaille autour de champs innovants. Et donc, pour illustrer ces 58 actions, c'est par exemple le fonds que je viens de citer à hauteur de 3 millions IRDIS au RIDEC Gestion qui vient en capital principalement de TPE, PME, de l'aéronautique, mais c'est aussi 2 fois 3 millions au service des biotech et de sociétés, de start-up qui sont dans la bioproduction. Donc on voit bien que dans le champ de la santé, qui est un axe de diversification sur notre territoire, on a là un effet de levier majeur avec cette entreprise, cette belle entreprise qui a repris tout le champ de la R&D de Sanofi sur le l'Oncopole, le campus santé du futur donc à l'Oncopole. Evotech aujourd'hui porte un projet d'usine de bioproduction, c'est-à-dire des médicaments biologiques, à ne pas confondre avec toute l'industrie pharmaceutique qui fabrique des médicaments plutôt chimiques. Les deux sont extrêmement intéressants pour notre territoire. Mais aujourd'hui, on est là avec deux belles pépites que nous hébergions dans un de nos centres d'hébergement de start-up, le centre Pierre Potier à l'Oncopole, et une qui est Evotech, qui, au-delà de son champ, puisqu'elle a multiplié son chiffre d'affaires par 5 ces 5 dernières années, dans le champ de la R&D, elle vient sur le champ de la production et de la bioproduction de médicaments. Donc très accompagné par l'État et nous allons aussi accompagner toutes les start-up qui relèvent de la santé, on va dire plus largement, au travers de fonds d'investissement que je viens de citer.
Alors j'ai vu qu'un de vos partenaires, la Chambre de commerce et d'industrie, la CCI, avait mis en place une cellule de crise pour les entreprises. Est-ce que vous êtes associé à cette démarche?
Oui, en fait, nous avons une plateforme commune qui s'appelle Mon Entreprise Pas à Pas, que nous enrichissons quotidiennement et dans laquelle on trouve beaucoup de réponses aux questions que le chef d'entreprise, petite, moyenne ou grande, peut se poser. Et ensuite, le chef d'entreprise est dirigé vers soit la CCI pour des questions qui relèvent de la CCI, soit vers nous pour des questions qui relèvent plus de la métropole. Et il est vrai que les chefs d'entreprise sont de plus en plus utilisateurs de cette plateforme, qui, je dois le dire, ne porte pas bien son nom, parce que Mon Entreprise Pas à Pas, on a l'impression que c'est une plateforme au service des entreprises naissantes, alors qu'en fait, si on est sur un foncier de 5000 m² qu'on veut s'agrandir et qu'on voudrait savoir comment faire pour acquérir 5000 m² de plus parce qu'on a une usine à créer sur notre territoire, eh ben, on va tout trouver sur Mon Entreprise Pas à Pas aussi. Donc c'est vraiment tout le spectre et toutes les attentes du chef d'entreprise entreprises auxquelles on répond par cette plateforme. Mais je dois reconnaître le travail remarquable qu'a fait la CCI au téléphone, en complément de cette plateforme, pour répondre encore plus finement et de façon encore plus précise et avec un contact humain aux chefs d'entreprise qui se sont posé beaucoup de questions sur la fin de l'année dernière, sur tous ces dispositifs que nous mettions collectivement à leur disposition. Mais il y en avait tellement de dispositifs au service des chefs d'entreprise qu'ils étaient un peu perdus. Donc la CCI a bien joué son rôle.
Alors, on a parlé de plan de relance, on a parlé de l'argent qui a pu être injecté par les collectivités, par l'État. Est-ce qu'il y a des fonds de soutien spécifiques qui ont été débloqués par Toulouse Métropole pour certains secteurs d'activité bien particuliers? On sait que ça a été le cas pour la culture, pour le secteur culturel. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont pu bénéficier de fonds de soutien spécifiques?
Alors en fait, au-delà de ce que je vous ai cité donc pour l'aéronautique, au-delà de ce que je vous ai cité pour les commerces, restaurants, bars, hôtels, en fait, celui qui a été le plus bénéficiaire, vous l'avez cité, c'est la culture. Dans le cadre de notre plan de relance, on a considéré que les artistes et les structures culturelles, qui représentent quand même les industries créatives et culturelles sur notre territoire, représentent 15 000 emplois sur le territoire de la métropole. Et donc, oui, on est venu à leur secours. Ils nous en ont énormément remercié. Ça n'a pas été le cas sur toutes les métropoles qui se sont pas forcément intéressées au champ culturel. Donc, pas de fonds dédiés en dehors de ces trois domaines que je viens de citer, mais par contre une attention très très particulière à toutes les filières en devenir. J'ai cité la santé, j'ai cité les mobilités du futur, j'ai cité l'espace bien sûr, les industries créatives et culturelles. C'est évidemment tout le champ de l'innovation que l'on a soutenu au travers des 58 actions de notre plan de relance.
Alors nous sommes déjà à la fin du premier trimestre 2021 et bon, inutile de le rappeler, les incertitudes demeurent concernant l'évolution de la crise sanitaire dans les prochains mois. Quelles sont les perspectives pour l'économie et l'emploi sur le territoire métropolitain? Est-ce que vous demeurez tout de même optimiste parce qu'il y a de la ressource et parce que vous avez mis en place les actions qu'il faut pour soutenir tous les secteurs, que personne ne soit laissé sur le bord du chemin?
On est quelques-uns à être extrêmement, je ne vais pas dire optimiste, mais convaincus que notre terre est véritablement résiliente. On a mis, je vous l'ai dit, la transformation digitale au cœur de notre relance économique. On a aidé beaucoup d'entreprises à se transformer. On pense qu'un certain nombre d'entreprises vont ressortir plus fortes de la crise. C'est quand même un marqueur de notre territoire. Je voudrais dire aussi que, et le président nous y a encouragé, on a mis la transition écologique et l'économie circulaire au cœur de notre relance aussi pour faire en sorte qu'on crée des emplois verts. Et la Green Tech, elle n'est pas créatrice d'emplois par milliers sur notre territoire, mais on a quand même de très belles pépites, j'en dirais une petite quinzaine sur notre territoire, qui sont en devenir et que l'on accompagne dans le cadre de ces 58 actions. Et donc, en mettant au cœur de notre relance à la fois la transformation numérique, la transformation écologique, cette consolidation dont j'ai parlé de la filière aéronautique, je pense que ce triptyque fera que notre résilience naturelle sera réalité et qu'on sortira pas trop mal de cette crise.
Alors, je voudrais qu'on termine avec un équipement qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure, qui lui aussi est un bijou de notre territoire et un bijou flambant neuf. C'est le Mythe, ce nouveau parc des expositions à l'ouest de la métropole. Très gros investissement pour cet équipement de premier plan qui n'a toujours pas pu démarrer son activité. Alors, quelles sont les perspectives pour le Mythe? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui? Est-ce qu'on a déjà un horizon à plus ou moins court terme?
Plusieurs choses sur le Mythe. La première chose, c'est qu'on essaye de porter un projet qui serait 8, 9 et 10 juillet, l'essentiel festival. Un festival à destination de tous nos commerces qui ont tant souffert ces 12 derniers mois. Un festival dont évidemment tous les traiteurs et tous les acteurs de l'événementiel seraient partenaires. C'est très ambitieux, c'est un gros budget, mais on a bon espoir que le gouvernement, le conseil régional, la métropole, nous puissions arriver à monter ce festival qui, si, comme vous l'avez dit en introduction, la vaccination est efficace comme on le pense tous, début juillet pourrait nous permettre de fêter la sortie de cette pandémie. Premièrement, donc, ce nouveau festival qui serait le premier moment festif au Mythe en 2021. Ensuite, un énorme congrès qu'on est extrêmement fiers d'accueillir en 2022. C'est le congrès européen des transports du futur, de la mobilité, des transports décarbonés. Et donc, cet événement qui va drainer de l'ordre de 5 à 7 000 congressistes, nous l'avons emporté face à deux autres métropoles européennes. Et nous avons pu l'accueillir grâce à un fonds dont j'oubliais de vous parler, qui s'appelle le fonds congrès. Nous avons délibéré en décembre, nous engageant donc pour soutenir le Mythe à investir environ 1 million d'euros par an, chaque année, pour venir soutenir l'attractivité du MIT et accueillir de très grands congrès. Donc ITS, il s'appelle International Transportation Systems, donc c'est celui-ci que nous allons accueillir en 2022. C'est vraiment un moment où on pourra ancrer les mobilités du futur sur notre territoire. À côté de cela, on a un certain nombre de, quasi tous, le partenaire GL Events du MIT nous disait que quasi tous ont été reportés, aucun n'a été annulé. Donc aussitôt que la pandémie nous le permettra et que les mesures sanitaires seront levées, le MIT pourra assurer son rôle de parc d'exposition et de centre de congrès de renommée internationale.
Le moment est venu de conclure ce numéro. Merci beaucoup Dominique Faure d'en avoir été l'invité, de nous avoir présenté ce tableau de la situation de l'économie et de l'emploi dans la métropole toulousaine. Je le répète, l'incertitude demeure quant à une sortie proche de la crise sanitaire. Il est clair que ça conditionne beaucoup la reprise économique, mais on peut raisonnablement espérer que celle-ci sera à la fois rapide et forte lorsque nous reviendrons à une vie normale, et ce n'est peut-être pas si loin. À Toulouse, en tout cas, il y a de la ressource, comme vous avez pu le constater, alors essayons de rester optimistes. Pour ceux qui voudraient connaître dans le détail les actions de Toulouse Métropole pour l'économie et l'emploi, je vous invite à vous connecter au site web de Toulouse Métropole, www.toulouse-metropole.com, et à consultez la catégorie Mission, rubrique Développement économique. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, Métropole et vous bien.
Métropole et vous. Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.